octobre, centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
C'est ici que siégea Étienne Marcel. C'est à l'hôtel de ville que par deux fois, au siècle dernier, fut proclamée la République.
Le préfet de la Seine tient à s'associer aux paroles de Monsieur le Président du Conseil municipal.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. La chronique ne s'en est jamais tarie. Depuis que Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République, a décidé au mi-temps des années 1970 de recréer la fonction de maire de Paris qui avait disparu depuis bien longtemps et dont Jacques Chirac sut se saisir alors, les relations entre les gouvernements et la municipalité de la capitale n'ont guère cessé d'être scandées par des bisbilles, des zizanies, des chicaneries et des incompréhensions sur un fond de grande méfiance. L'actualité de ces derniers temps n'en a pas été avare sur toutes sortes de sujets concernant la circulation, le logement, les finances ou l'ordre public. Mais pour étudier et comprendre ces tensions qui sont en somme structurelles, on aurait bien tort de s'en tenir aux seules dernières décennies. Il y a belle lurette, en effet, que dans un pays où la ville majeure constitue, ce qui n'est pas le cas chez la plupart de nos voisins, le cœur de toutes les activités nationales, qu'elles soient politiques, économiques, spirituelles, culturelles ou touristiques, il y a belle lurette, en fait, des siècles et des siècles, que le pouvoir central, tout à la fois méfiant et impérieux, s'attache à lui imposer son autorité et à brider son autonomie. L'État et Paris, Paris et l'État, un couple constamment secoué par l'histoire. Mon invitée, Isabelle Bacouche, est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et très active au sein du comité d'histoire de la ville de Paris. Parfaitement compétente et fort sagace.
C'est le devoir, c'est l'honneur de Paris de marcher à la tête de ce grand mouvement de rénovation et d'action nationale comme il l'a fait à travers les siècles en chaque occasion décisive. Puisque son rôle à l'égard de la France demeure, d'après le mot de Paul Valéry, immense et singulier. Que de choses l'État attend de sa capitale en compagnie du gouvernement et des présidents des assemblées, je suis venu ici le lui dire que Paris, une fois de plus, donne l'exemple à la nation. Vive Paris, vive la République, vive la France.
Isabelle Bacouche, bonjour.
Bonjour.
Je n'ai aucun doute que vous avez reconnu la voix du général de Gaulle qui s'exprimait à l'Hôtel de Ville de Paris le 18 juin 1959, la première année de sa présidence de la République. Nous sommes là du côté de l'illustration du rôle de Paris. Tout est amène et paraît facile en réalité. Célébrer Paris, c'est aussi évoquer, forcément nous allons le faire, les tensions qui n'ont pas cessé de se manifester entre l'État et notre capitale.
Une capitale effectivement d'un État très centralisé, une capitale qui s'est développée dès le Moyen-Âge avec une très forte population, une concentration des pouvoirs et des activités économiques et une mainmise du pouvoir royal qui va s'accentuer. Face à l'émancipation progressive de plusieurs autorités dans la ville.
Un sujet immense et singulier, dit De Gaulle citant Valéry, c'est un peu notre thème d'aujourd'hui. En tout cas, On peut l'appliquer de fait à la ville dès le Moyen-Âge, puisqu'elle a un poids démographique, elle est la plus peuplée en Occident au XIVe siècle. 200 000 habitants, oui. La modestie de son territoire, en même temps qu'il est circonscrit par plusieurs enceintes successives, et la complexité des pouvoirs qui la contrôlent, nous allons à plus soif le démontrer.
Alors, plusieurs pouvoirs, effectivement, les rois de France, progressivement, vont à la fois faire émerger des autorités municipales pour avoir des interlocuteurs, notamment pour faire lever l'impôt. Mais plusieurs pouvoirs, ça permet, selon la devise bien connue, de diviser pour régner. Et c'est exactement ce que le pouvoir central va faire au fil des siècles concernant la capitale.
Il faut pratiquement remonter, Isabelle Bacouche, un millénaire en arrière.
Oui, c'est à partir de Philippe Auguste, la construction d'une première enceinte et donc finalement la circonscription d'une capitale et d'une ville. Et puis ensuite la décision de François Ier de faire de Paris une capitale en s'y installant de façon un peu plus stable, que Paris va prendre tous les attributs d'une capitale. Entre-temps, il y a une autorité municipale qui a émergé, c'est Saint-Louis, soucieux de s'appuyer sur la bourgeoisie. Et la bourgeoisie, à l'époque, c'est cette corporation des marchands de l'eau qui contrôle le commerce fluvial. Le prévôt des marchands va donc devenir le représentant de la ville et des bourgeois parisiens face au roi. L'idée, c'est d'avoir quelqu'un avec qui dialoguer et en même temps, quelqu'un qui est relativement soumis au pouvoir royal.
Parler du prévôt des marchands, qui en effet est un pouvoir qui émerge et qui du même coup va devenir aussi un enjeu, c'est marquer que l'aspect économique a beaucoup compté et que la tension entre la bourgeoisie montante, elle est toujours montante la bourgeoisie montante et le pouvoir central, que cette tension a été fondamentale pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui.
Le prévôt des marchands, c'est la Seine. C'est vrai que c'est une activité économique absolument centrale dans une capitale. Au Moyen-Âge et même dans les siècles suivants, il faut s'assurer que les habitants de la ville aient de quoi manger et de quoi subsister. Sinon, la crainte, c'est la famine et la révolte. Donc, c'est évidemment une fonction clé qui va donc progressivement prendre des atours politiques et des allures politiques, mais à la fois pour parler au nom des Parisiens. Et quand je dis les Parisiens, c'est les bourgeois, mais avec Étienne Marcel au XIVe siècle, ça sera aussi le petit peuple de Paris. Donc, quand on parle des Parisiens, il faut avoir en tête cette diversité sociale de cette ville gigantesque qu'est Paris.
Il faut dire qu'elle cumule, ce qui n'est pas le cas des autres villes majeures de l'Europe occidentale, elle cumule toutes les fonctions, la fonction universitaire, la fonction... Bologne, c'est une ville universitaire. Venise, c'est une ville commerciale. Gand, c'est une ville industrielle. Paris, c'est tout cela à la fois.
C'est tout ça, oui. Oui, il y a une sédimentation progressive de... Les archives royales sont installées aussi dans l'île de la Cité. Toutes les grandes cours avec lesquelles le roi travaille vont progressivement aussi s'installer dans Paris. Donc on a un État extrêmement centralisé, ça c'est bien connu, centralisé dans une ville qui est à la fois une capitale, mais qui reste très soumise au pouvoir central et qui va avoir beaucoup de mal à s'émanciper, on va dire, de cette tutelle.
Cet effort d'émancipation dure de siècle en siècle jusqu'aujourd'hui. Mais restons un instant, si vous voulez bien, dans ce Moyen-Âge, pour évoquer, vous avez parlé de Saint-Louis, oui, et du prévôt des marchands. En face, il crée ou développe le pouvoir du prévôt de Paris. Ce côté binaire, ce côté dual des pouvoirs est en fait installé dès ce moment-là et perdure.
Voilà, cette bicéphalie est évidemment un atout pour le pouvoir central, qu'il soit monarchique, impérial ou républicain. Ce prévôt de Paris perçoit les revenus du domaine du roi et Saint-Louis décide de le nommer et de rendre la fonction révocable. Donc il y a toujours cette fragilité de ces hommes qui incarnent la capitale, qui aussi s'occupe de ses subsistances, du commerce fluvial, on l'a dit, pour le prévôt des marchands. Pour le prévôt de Paris, c'est plutôt l'entretien de la voirie et toutes sortes de prérogatives qui font que la ville reste à la fois propre et vivable, on va dire, pour les Parisiens. Et puis, évidemment, la fonction de sécurité, de police, qui est extrêmement important pour le prévôt de Paris.
Et auquel, naturellement, la monarchie est très attachée et qu'elle ne concède pas. C'est une fonction qu'elle ne va pas concéder au prévôt des marchands. Il y a un moment topique, c'est le moment où on débat, et ce sera plus tard, mais Louis XIV a tranché pour savoir qui est responsable du mouvement du commerce, et il dit finalement que le prévôt des marchands aura à s'occuper de ce qui est fluvial, les marchandises qui arrivent par l'eau, et que le prévôt de Paris aura à s'occuper du reste des échanges arrivant par la voie terrestre.
Par la voie terrestre.
Ce côté fluvial est très important. Après tout, la formule, enfin la devise de Paris, fluctuat nec mergitur, est significative et renvoie à ce commerce fluvial. On croit parfois que fluctuat nec mergitur, ça veut dire elle flotte et ne coule pas, ce qui serait un pléonasme qui n'aurait pas de sens. En réalité, fluctuat veut dire elle tangue, elle est profondément agitée, mais elle ne coule pas.
Oui, oui, non, ça c'est vraiment, c'est une devise qui est à l'image de l'histoire de Paris. Donc il y a ce partage en 1700, c'est aussi parce que à cette date, il y a eu une modification dans les équilibres entre ces deux pouvoirs. En 1667, le prévôt de Paris a été remplacé par le lieutenant général de police, qui là est véritablement l'homme du roi, hein, installé dans la capitale, qui défend les intérêts du roi.
Et l'ordre.
Et bien sûr l'ordre avec tous ses commissaires et ses inspecteurs qui ont un peu de mal à travailler parce que leur rémunération n'est pas non plus et puis n'ont pas forcément de bureau et de lieu pour travailler.
Inquiétude constante du pouvoir central devant les émotions, comme on dit à l'époque, les révoltes possibles, les barricades de Paris.
Bah, les barricades de Paris, oui, il y en a eu plusieurs, hein, donc aussi bien pendant la Ligue que pendant la Fronde. Les Parisiens ont inventé la barricade, c'est-à-dire finalement obstruer une voie publique avec des barriques remplies de sable ou de pierre. Donc ça, c'est l'origine du mot. Et cette capacité de la ville de Paris à se soulever, pour différentes raisons, hein. Sous Étienne Marcel, c'est plutôt des raisons fiscales, ça peut être des raisons religieuses sous la Ligue. Paris est une personnalité qui est capable d'affronter le pouvoir royal. Et c'est pour cette raison que le pouvoir royal n'a de cesse d'essayer, par des réformes administratives, d'annihiler, on va dire, l'expression politique de la ville de Paris.
Vous venez d'évoquer à deux reprises Étienne Marcel, il faut que nous nous attardions un instant sur cette personnalité. D'abord parce qu'elle a compté en son temps, c'est-à-dire au milieu du XIVe siècle, et aussi parce que sa figure a beaucoup évolué, c'est toujours éclairant, d'âge en âge, pendant un certain temps, au temps du pouvoir absolu, elle apparaissait comme celle d'un homme qui s'était révolté. C'était donc un personnage négatif. Et puis ensuite, au XIXe siècle, au contraire, Étienne Marcel a pris l'apparence d'un personnage qui incarne la liberté de Paris et la résistance au pouvoir central. Lorsque Jacques Chirac a accueilli François Mitterrand en mai 1981, tradition de visite du président de la République nouvellement élu à l'Hôtel de Ville, il a beaucoup insisté sur Étienne Marcel, ça avait un sens. Et puis il y a cette statue d'Étienne Marcel, dont je voudrais que vous nous disiez un mot, que les Parisiens connaissent, et qui est dans ce petit square qui est entre l'Hôtel de Ville et la Seine.
Et la Seine. Alors effectivement, Étienne Marcel, c'est celui qui a résisté au roi de France. C'est en même temps aussi celui qui a finalement été massacré par ceux dont il défendait les intérêts, dès 1358.
Dans quelles conditions? Comment a-t-il émergé?
Il est prévôt des marchands. Et sur fond de guerre avec les Anglais, donc d'un contexte national extrêmement agité, Étienne Marcel, sur des questions fiscales, prend la défense des Parisiens et va effectivement, il y a une image assez connue, s'opposer au roi de France, enfin à celui qui est roi de France à l'époque, pour finalement ne pas accéder à la demande du roi.
Mais États généraux de 1355, ces questions financières sont toujours au centre de cette opposition entre l'État central, cette méfiance État central et capital. Dès Étienne Marcel, il impose le contrôle des taxes par une commission. Il impose
oui,
au
parce
dauphin.
Que les États généraux étaient censés voter l'impôt et Étienne Marcel va essayer tente d'imposer un système finalement qui contrôle davantage les appétits fiscaux de la monarchie. le mouvement populaire qu'il a soutenu va se retourner contre lui. En très peu de temps, et il sera finalement massacré.
Assassiné par un collègue jaloux, Jean Maillard. Oui.
mais du même coup, c'est vrai que c'est une figure qui, pendant des siècles, va être plutôt celle du traître, de celui qui parle trop fort vis-à-vis du pouvoir central. Et c'est sous la Troisième République que finalement les choses vont s'inverser, au moment où la Troisième République a construit un roman national, mais finalement il y a aussi construction d'un roman municipal. Viollet-le-Duc va, au moment de la reconstruction de l'hôtel de ville, qui a été incendié pendant la Commune, proposer d'ériger une statue d'Étienne Marcel, qui est donc une statue équestre. Alors bon, Viollet-le-Duc était très impliqué dans les affaires parisiennes. C'est vrai qu'il a rénové, à commencer par Notre-Dame. Donc
grand architecte, oui.
Et un grand architecte.
Assez souple politiquement, il s'adaptait bien aux différents régimes.
Mais on dit, et Boris Boff qui a travaillé sur cette décision d'installer la statue, on dit qu'en fait il y a une sorte d'identification entre Viollet-le-Duc et Étienne Marcel. Et en même temps, si la statue est dans ce petit square, c'est-à-dire latéralement par rapport à la place qui est devant l'hôtel de ville, c'est parce que à l'hôtel de ville est installé le préfet de la Seine, et qui est donc celui qui dirige, en fait, on y reviendra, les destinées de Paris. Et donc, installer Étienne Marcel sur la place, Viollet-le-Duc était finalement assez malin, s'est dit, ça va être refusé, donc autant le mettre sur le côté. Mais résultat, c'est vrai qu'il y est toujours.
Et nos auditeurs et nos auditrices peuvent l'aller voir et saluer, soit qu'il soit parisien, soit qu'il passe par la capitale.
La figure d'Étienne Marcel, ensuite, c'est la rue Étienne Marcel et la station de métro, c'est-à-dire qu'ensuite, les décennies suivantes, on continue à entretenir cette figure et cette mythologie d'Étienne Marcel comme représentant de la capitale, en baptisant une rue, la rue Étienne Marcel, et une station de métro un peu plus tard.
La statue est d'autant plus à sa place que c'est en 1357, donc l'année qui a précédé sa mort, qu'Étienne Marcel avait installé le siège de la municipalité dans la maison au pilier sur la place de Grève. C'est la maison qui accueillait le bureau de la ville, qui était l'anciennement la hanse des marchands de l'eau. Donc c'est le lieu aussi où est aujourd'hui l'hôtel de ville.
C'est le lieu où est l'hôtel de ville, c'est l'emplacement. Alors c'est vrai que cette décision, on va dire, d'urbanisme, mais qui est aussi une décision de finalement sédentariser un pouvoir municipal. Et ça, c'est toujours un pas important quand une administration se trouve un lieu. Il achète donc cette maison au pilier. Qui va abriter les institutions municipales, qui va être plus ou moins bien entretenu, et c'est François Ier qui décide au début du XVIe siècle de doter la ville d'un bâtiment à la fois plus grand, plus pratique pour abriter toute l'administration parisienne, et il confie le chantier à un architecte italien qui connaît assez bien, donc Dominique de Cortone, qui connaît assez bien la France, mais qui a été formé avec la culture de la Renaissance, ce choix de la part de François Ier n'est pas très étonnant.
Et comme après l'incendie de la Commune, le bâtiment a été refait à peu près à l'identique, on a toujours là ce style Renaissance qui tranche beaucoup avec le style gothique, par exemple, de Notre-Dame.
C'est vrai que l'hôtel de ville aujourd'hui, c'est quasiment la réplique. Ça a été une décision qui a été mûrie difficilement, mais on a décidé de reconstruire le bâtiment du XVIe siècle, et avec des modifications, notamment sur la statuaire. Mais du coup, c'est ce qui fait aussi aujourd'hui, dans le paysage parisien, l'originalité de ce bâtiment. C'est-à-dire qu'un bâtiment Renaissance, comme ça, en plein milieu de Paris, il tranche avec ce qui peut être gothique ou ce qui ensuite a été notamment aménagé par Haussmann. Donc finalement, ça donne une visibilité dans le paysage parisien ce bâtiment.
On peut observer en passant qu'il a mis presque un siècle à être achevé. Quelquefois, on trouve que nos chantiers sont lents. Mais là, c'est aussi lent que la construction de Notre-Dame, 1533-1628.
Mais il faut aussi souligner le fait que ce bâtiment est né de la volonté du pouvoir royal. C'est-à-dire qu'au moment où la municipalité va avoir un bâtiment digne de l'administration municipale parisienne, c'est quand même le roi de France qui a donné l'impulsion.
Le dialogue continue entre les responsables de Paris et le roi. Et c'est vrai, au temps d'Henri IV, je vais vous faire écouter, Isabelle Bacouche, cette lettre de François Miron, qui était prévôt des marchands, donc un successeur d'Étienne Marcel, à propos d'un débat sur l'organisation de la ville. Et vous allez nous expliquer tout ça. C'est Olivier Germain-Thomas qui nous offre cette lecture. C'est un extrait de l'émission matinale de Claude Dupont, le 16 avril 1983.
Cher sire, permettez que je me retire. En jurant fidélité au roi, j'ai promis soutenir la royauté. Or, votre majesté me commande un acte pernicieux à la royauté. Je refuse, je le répète à mon cher maître et souverain bien-aimé. C'est une pernicieuse idée de bâtir des quartiers à usage exclusif d'artisans et d'ouvriers. Dans une capitale où se trouve le souverain, il ne faut pas que les petits soient d'un côté et les gros et dodus de l'autre. C'est beaucoup mieux et sûrement quand tout est mélangé. Les quartiers pauvres deviendront des citadelles qui prolongeraient nos quartiers riches. Or, comme le Louvre est la partie belle, il pourrait se faire que les balles vinssent ricocher sur votre couronne. Sire, je ne veux pas être complice de cette mesure. Réponse du roi Henri IV. Compère, vous êtes vif comme un hanneton. Mais à la fin du compte, un brave et loyal sujet. Soyez content, on fera vos volontés, et le roi de France ira longtemps à votre école de sagesse et de prudomie. Je vous attends à souper et je vous embrasse.
Vif comme un hanneton. On aurait peut-être pu, à d'autres périodes, appliquer cette définition à Jacques Chirac en face de Valéry Giscard d'Estaing ou de François Mitterrand. Mais restons au temps d'Henri IV, Isabelle Bacouche. Les rapports sont plus amènes qu'à d'autres moments, mais on voit néanmoins très clairement s'opposer de légitimité. Et puis on voit aussi, chemin faisant, que dès ce moment-là, on se préoccupe de la diversité sociologique de Paris. En 1831, au moment du choléra, on s'aperçoit que les gens meurent beaucoup plus nombreux à l'est qu'à l'ouest, parce que c'est la partie très populaire de Paris. Et c'est une préoccupation qui continue de siècle en siècle.
Alors oui, il y a une très grande modernité de ces propos de François Miron, qui est donc prévôt des marchands au début du XVIIe siècle, et qui donc, on le voit, dialogue avec Henri IV, qui lui répond de façon très affable, sur des projets d'aménagement qui aboutiraient à une forme de spécialisation des quartiers, d'un côté les artisans, et de l'autre des quartiers, on va dire, plus résidentiels, notamment autour du Louvre. Et là, ce que François Miron dit bien, c'est qu'il y a danger à concentrer le peuple et la masse populaire, parce qu'il peut y avoir ensuite émeute. Et c'est vrai que c'est ce qui va incarner souvent la ville de Paris dans sa manière de s'exprimer face au roi ou dans sa volonté finalement de faire sauter le corset sous lequel elle est placée, eh bien, ça sera souvent l'émeute et la révolte. Et donc là, François Miron lui donne des conseils finalement d'aménagement urbain et social. Donc c'est extrêmement intéressant, quand on sait l'évolution sociologique du Paris d'aujourd'hui, d'entendre ces paroles au début du XVIIe siècle.
L'inquiétude envers l'ordre public, là, cela est vraiment constant, jusqu'en 1968. Ce sont, je crois, si j'ai bien observé les choses, le dernier moment des barricades parisiennes. Pour l'instant, Isabelle Bacouche, 68.
Pour l'instant, effectivement, ces barricades inventées par le peuple de Paris, on n'en a pas vu depuis mai 68. Et cette question de l'ordre public, on a dit que c'était le lieutenant général de police qui, au XVIIe siècle, a les prérogatives de police. Et encore aujourd'hui, Anne Hidalgo n'a pas la plénitude des pouvoirs de police comme tous les autres maires de France les ont.
D'où l'importance du rôle du préfet de police Maurice Grimaud en 1968, dont la sagesse explique en partie qu'il n'y ait pas eu de drame absolu et de sang qui ait coulé. À propos de barricades, eh bien, il y en a d'autres qui sont fameuses. C'est au moment de la Fronde en 1648. Écoutez cette chanson des barricades de Paris, 1649, par Germaine Montero et Victor Apicella à la guitare.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Six vendeuses de poissons ont composé la chanson des barricades dernières. L'air là, l'air lent, l'air là, l'air lent là. Comme ensemble elles buvaient, l'une à l'autre se disaient, parlons un peu de nos affaires, l'air là, l'air lent, l'air là, l'air lent là. Une vendeuse de sel dit que monsieur de Bruxelles nous était fort nécessaire. L'air là, l'air lent, l'air là, l'air lent là. Pour le peuple supporté, fut en prison arrêté, mais il n'y demeura guère. L'air là, l'air lent, l'air là, l'air lent là. Car les bourgeois animés, aussitôt se sont armés, par une façon guerrière. L'air là, l'air là, l'air lent là. Les soldats épouvantés de se voir si bien traités tournaient le cul par terre. L'air là, l'air lent, l'air là, l'air lent là. Mais ils ont pour se venger voulu Paris assiéger, mais ils n'y gagneront guère. L'air là, l'air lent, l'air là, l'air lent là. Crions tous de vive foi, vive Louis notre roi, aussi monseigneur son frère. L'air là, l'air lent, l'air là, l'air lent là.
Rappelez-nous donc, Isabelle Bacouche, les circonstances qui ont fait qu'en 1648, une fois de plus, les Parisiens ont choisi la route de la révolte. Une fois de plus, l'origine en est financière. Il y a un accord entre le peuple parisien et les bourgeois et, d'autre part, les grands du royaume au Parlement contre la monarchie. C'est important, y compris par opposition pour la suite du règne de Louis XIV, qui est à l'époque un enfant et qui est emmené par Anne d'Autriche hors de Paris. Humiliation majeure.
Alors, c'est la minorité de Louis XIV. C'est une décision de Louis XIII de taxer toute construction au-delà de l'enceinte. On a parlé de l'enceinte de Philippe Auguste, mais au fil des siècles, Paris a été cerné d'enceintes qui ont élargi le périmètre de la capitale. Et l'idée, bon, la monarchie a toujours besoin d'argent, de taxes, donc c'était de taxer toute construction au-delà de l'enceinte. Ça a mis le feu aux poudres. Les Parisiens ont résisté. Et il y a une association, effectivement, avec certains grands du royaume, des nobles, des aristocrates. Profitant, Louis XIII est mort, Louis XIV est tout jeune, il est encore mineur. Et là, il va y avoir une résistance et des conflits, avec de nouveau des barricades, contre l'absolutisme et la monarchie. De fait, ça va marquer un divorce important entre le pouvoir royal et Paris, et ce divorce va se marquer notamment par la décision de Louis XIV d'installer la cour à Versailles. Donc là, on a un face-à-face, on va dire, physique et spatial qui va s'installer et qui va durer, puisque de nouveau sous la Commune, on aura ce face-à-face entre Paris et les Versaillais et Versailles.
Lorsque l'Assemblée nationale élue après la chute de l'Empire, effectivement, choisit, après Bordeaux, de ne pas revenir à Paris, mais d'aller à Versailles. Les Versaillais vont s'opposer aux communards.
Voilà, donc il y a toujours cette espèce de pas de côté, finalement, que fait le pouvoir central face à une capitale qui se soulève, qui résiste et qui parle trop haut. Louis XIV viendra une ou deux fois à Paris, mais il déserte totalement la capitale. C'est aussi lui qui décidera de détruire les derniers remparts, la dernière enceinte, et d'aménager à la place de l'enceinte les grands boulevards, avec les deux portes, la porte Saint-Martin et la porte Saint-Denis, qui subsistent aujourd'hui. Et donc, Paris devient une ville ouverte. Hein. D'une certaine manière, c'est une forme de modernisation et de modernité, même si au XIXe siècle, on reconstruira de nouveau une enceinte.
Pour la dernière fois,
mais en même temps, c'est aussi faire... Paris perd finalement sa définition et sa limite. Donc, c'est une façon de dissoudre un peu Paris. Alors, du point de vue politique, il a aussi fait ce choix parce qu'il avait fortifié les frontières nord et est, et donc Paris était moins mise en péril et on pouvait en faire une ville ouverte.
Mais c'est aussi le même Louis XIV qui décide de créer, date importante, la fonction de lieutenant général de police en 1667, qui montre une fois de plus la volonté de tenir en main une capitale éventuellement frondeuse.
Bon, il a fui Paris sous la Fronde, il lance le projet Versaillais, mais en 1667, le lieutenant général de police est le premier tenant de la fonction. Nicolas de la Reynie restera en poste 30 ans.
30 ans, oui, ça fait rêver nos préfets d'aujourd'hui.
Il s'installe au Châtelet. Alors, c'était une grande forteresse qui était à la place du Châtelet actuel. Et ce lieutenant général de police va incarner et défendre les intérêts du roi pour toutes sortes de questions, que ce soit notamment l'urbanisme parisien et les aménagements parisiens. Parce que même si les rois de France, à partir de Louis XIV, quittent Paris, il reste très vigilant sur tout ce qui est aménagement parisien. Louis XV acceptera et, on va dire, dirigera la construction de la place Louis XV, aujourd'hui place de la Concorde. Le principe, c'est le principe qui a présidé à toutes les places royales précédentes, que ce soit la place des Vosges, la place des Victoires. C'est la ville qui veut offrir et rendre hommage au roi en érigeant une statue. Et le roi qui, lui, en général, décide de l'emplacement et participe au financement. Et donc, la place de la Concorde, dite place Louis XV, qui donc est aménagée au XVIIIe siècle, c'est la dernière place royale, mais ça marque dans le paysage parisien cette alliance et ce dialogue entre la monarchie et les institutions parisiennes.
Elle est aussi un temps place de la Révolution, brièvement, ce qui nous conduit directement à l'époque, donc après 89, où Paris se dote pour la première fois d'un maire. Maire, je rappelle que ça vient de Mayor, c'est-à-dire le plus important, le plus grand, le plus notable, Mayor, maire.
On a tendance à attribuer beaucoup de transformations et d'innovations à la Révolution française, mais en l'occurrence, dès le 15 juillet 1789, Jean-Sylvain Bailly est nommé maire de Paris. Il se substitue au dernier prévôt des marchands, Flessel, qui a été massacré dès le 14 juillet 1789. Donc, c'est à partir de cette date, c'est lui qui incarne les intérêts parisiens. C'est lui qui accueille Louis XVI le 17 juillet 1789. À Chaillot, Louis XVI qui porte la cocarde tricolore. Il faut rappeler que la cocarde tricolore, c'est quand même le mariage et la fusion entre les couleurs de Paris, le bleu et le rouge, et le blanc, la couleur de la monarchie.
Il est significatif que ce soit de Versailles que vienne le roi. Bailly, qui l'accueille à Chaillot, dit « Sire, j'apporte à votre majesté les clés de la bonne ville de Paris. Ce sont les mêmes qui ont été présentées à Henri IV. Il avait reconquis son peuple. Ici, le peuple a reconquis son roi. »
C'est une dialectique assez ferme et assez intéressante.
Mais c'est le même qui avait d'ailleurs accueilli à côté de Mirabeau, qui avait refusé que les états généraux devenus assemblés au jeu de paume se dispersassent.
Voilà.
On voit d'ailleurs la haine accumulée par le peuple à l'égard du prévôt des marchands et à l'égard du lieutenant de police, puisque l'un et l'autre sont des victimes de mouvements de foule dans des conditions affreuses. Ils sont lynchés, littéralement. Berthier de Sauvigny, le lieutenant de police, est arrêté, dépecé. Et Jacques de Flessel, le prévôt des marchands, a été également tué.
Les deux, effectivement. Donc,
symbolique.
C'est assez symbolique, effectivement, de la relation des Parisiens avec, finalement, leur tutelle politique. Mais il faut aussi dire que si ces deux hommes ont été parmi les premières victimes des émeutes parisiennes, c'est aussi parce qu'au XVIIIe siècle, alors pour le lieutenant général de police, il est effectivement nommé par le roi, mais le prévôt des marchands, lui aussi, est de plus en plus devenu une créature du roi. Donc ils incarnent tous les deux l'absolutisme contre lequel les Parisiens vont se révolter en 1789. Donc c'est assez logique finalement qu'ils soient parmi les premiers victimes de ces événements.
Alors, le 21 mai 90, on crée département de la Seine.
On crée effectivement, la Révolution va réorganiser tout le territoire parisien en créant les départements, et Paris est inclus dans un département de la Seine, devient l'un des trois arrondissements avec Sceaux et Saint-Denis. Ça veut dire que s'inaugure dès 1789 le fait que la capitale soit inscrite dans une circonscription plus vaste avec des autorités qui vont chapeauter sans cesse la capitale. Alors, le 21 mai 1790, il y a un statut pour la ville de Paris qui est adopté. Elle est divisée en 48 sections. Et il y a un conseil municipal qui commence à s'émanciper, qui est élu par les citoyens actifs, c'est-à-dire c'est un système censitaire. Tout le monde ne vote pas. Donc, oui, la Révolution française, c'est à la fois l'émergence d'un maire, et puis c'est aussi le début, finalement, d'une organisation administrative pour la capitale, mais un statut qui dissout Paris dans une entité plus large qui est le département de la Seine.
Assez symboliquement, Bailly lui-même est une victime de la guillotine. On s'entretue beaucoup. Il y a eu 5 ou 6 maires successivement. Et puis, après Thermidor et après, avec l'arrivée du directoire, méfiance de nouveau. Et on supprime la fonction de maire de Paris.
Méfiance parce qu'effectivement, entre le 14 juillet 1789 et 1795, il y a eu plusieurs émeutes parisiennes. On supprime donc la mairie en 1795. Et on divise Paris en 12 municipalités, qui sont 12 arrondissements, c'est-à-dire un démembrement. Donc, en fractionnant finalement le territoire parisien, c'est une façon aussi de dissoudre sa représentation politique.
Il est d'ailleurs notable que beaucoup, beaucoup de temps après, c'est-à-dire sous la présidence de François Mitterrand, Jacques Chirac étant maire de Paris, on a défini un projet qui n'a pas abouti en définitive, qui était précisément une redivision de Paris, avec évidemment une finalité politique, c'était pour faire échapper à la droite néo-gaulliste le gouvernement de Paris dans une grande mesure, et nous verrons tout à l'heure que Jacques Chirac s'est défendu comme un beau diable avec efficacité.
Oui, parce que la division de Paris en arrondissements, que ce soit 12 puis 20 à partir d'Haussmann, répond à un besoin principal, c'est une proximité avec les administrés, c'est-à-dire pour toutes sortes d'activités, l'état civil, la bienfaisance, la police et toutes sortes d'actes qu'on est censé faire quotidiennement en se rendant à sa mairie. Mais les moments où le pouvoir national veut reprendre la main sur le pouvoir parisien passe par cette loi qu'on évoquera tout à l'heure, qui est de finalement transférer les prérogatives politiques à l'échelon inférieur, c'est-à-dire aux mairies d'arrondissement.
Pendant toute la période napoléonienne et la période de la Restauration et de la Monarchie de Juillet, on ne remet pas en cause cette manière de gouverner Paris, de surveiller Paris. En revanche, en 1848, assez normalement et aussi symboliquement, ressurgit le maire avec Garnier Pagès et Armand Maraste, qui, à l'Hôtel de Ville, incarne cette prise de pouvoir. C'est à l'Hôtel de Ville que Lamartine prononce son fameux discours pour défendre le drapeau tricolore contre le drapeau rouge.
Après février 48. Alors, 1789, 48 et la chute du Second Empire, c'est les moments où le maire revient et où Paris retrouve un maire. Il faut quand même signaler cette loi importante de février 1800, Napoléon s'inscrivant dans la continuité de ce qui s'est passé depuis 1795, c'est la création du préfet de la Seine et du préfet de police, c'est-à-dire pour Paris, à partir de 1800, cette bicéphalie de nouveau une répartition préfet de la Seine, préfet de police. Le préfet de la Seine, en 1803, s'installe à l'Hôtel de Ville et le préfet de police s'installera, lui, avenue Victoria, dans les années 1880, au moment des aménagements d'Haussmann. Et ensuite, sauf pendant les moments révolutionnaires, 1848 ou après 1870, c'est le préfet de la Seine qui décide, qui prend toutes les décisions importantes. Alors, il dialogue avec un conseil municipal qui a plus ou moins d'autonomie. Alors, en général, il est élu.
Nommé sous Napoléon III.
Mais voilà, il peut être nommé. Il sera aussi nommé sous Vichy. Le président du conseil municipal aussi est en général nommé. Donc, et puis, c'est le préfet qui a l'initiative des questions qu'il soumet au conseil municipal. Donc, il y a une sorte d'asservissement de cette représentation politique parisienne qui, finalement, a assez peu de marge de manœuvre.
Partout ailleurs en France, le maire est chargé de l'exécution des décisions prises en conseil municipal. En l'occurrence, c'est le préfet de la Seine qui a cette responsabilité. Préfet de police, préfet de la Seine, le pouvoir exécutif aime toujours bien qu'il y ait deux autorités pour être plus sûr qu'on ne lui dérobe pas son pouvoir. Et c'est le grand personnage qu'est Haussmann qui va, comme vous savez, modifier profondément l'apparence de la capitale. Et ce n'est pas la dernière fois d'ailleurs que va s'incarner dans les grands monuments de Paris cette opposition entre le gouvernement d'une part et la municipalité de l'autre. Beaucoup de critiques. En même temps, écoutez cette chanson qui s'appelle « Les contes fantastiques d'Haussmann ». On reprend un pamphlet que Jules Ferry, républicain, avait, faisant allusion naturellement à Hoffmann, au conte fantastique d'Hoffmann, avait un pamphlet qu'il avait dirigé contre le préfet de la Seine. C'est une chanson de Paul Avenel qui est interprétée en 1961 par Bernard Lavalette.
Quand Julien fait des boulettes, c'est un bien grand pâtissier. Quand Haussmann double nos dettes, c'est un bien grand financier. Et tous les jours, il régale comme architecte ou maçon notre chère capitale d'un beau plat de sa façon. Ce préfet est parfait, il fait bien tout ce qu'il fait. Ainsi qu'une tarte aux pommes, il triangule un quartier. Ah, c'est le premier des hommes pour employer le mortier. S'il crée une grande artère, il passe par-dessus tout, mais en jetant tout par terre. Et lui seul reste debout. Ce préfet est parfait, il fait bien tout ce qu'il fait. Ce préfet est honorable, mais il est fort dépensier. Édifices, rues ou squares doivent au crédit foncier. Et s'il vous amène un fleuve par un aqueduc nouveau, c'est qu'il faut qu'il nous abreuve, payons et buvons de l'eau. Ce préfet est parfait, il fait bien tout ce qu'il veut. Ah, les contes fantastiques d'Haussmann sont très contestés. Nos députés élastiques les ont toujours adoptés. Ce préfet est parfait, il fait bien tout ce qu'il fait, oui.
Il fait bien tout ce qu'il fait, il y a un peu d'ironie là.
Il fait bien tout ce qu'il fait. Alors il a beaucoup travaillé, il a beaucoup marqué la capitale. Haussmann effectivement en 53 devient préfet de la Seine. Et il va plutôt travailler en bonne entente avec Napoléon III. Ce qui explique la puissance de frappe qu'il a eue pour transformer le paysage parisien.
Il a même pensé un moment pouvoir être nommé ministre de Paris.
Voilà, c'est un homme ambitieux. Donc, cette chanson, c'est Les Contes Fantastiques d'Haussmann. C'est un pamphlet que Jules Ferry a écrit en 1867. Jules Ferry qui deviendra maire de Paris en 1870 de façon fugace. Mais là, on est aussi dans cette critique d'Haussmann. Du point de vue financier, elle est largement exagérée, il faut quand même le dire, mais Jules Ferry incarne les Républicains et on est dans une volonté de reconquête du pouvoir. Ce que cette chanson montre aussi, c'est l'enjeu important de l'aménagement parisien au cœur de ce face-à-face entre le pouvoir national, qu'il soit monarchique ou républicain, et les instances parisiennes.
Et là, ça dure jusqu'aujourd'hui. Regardons les débats entre... très, très, très vif entre Chirac, maire de Paris, et François Mitterrand, tous les deux ayant la volonté et l'espoir de mettre leur marque dans les grands travaux. Le débat, par exemple, sur les Halles est topique.
Chirac devient maire de Paris en 77 en pleine réflexion sur l'aménagement de l'emplacement des Halles qui ont déménagé au tout début des années 70. Et Chirac va construire sa légitimité de maire de Paris, notamment en s'emparant de la question des Halles, qui jusque-là était traitée à l'Élysée. Hein, et finalement, il va réussir à chasser Giscard.
Qui voulait un jardin, lui.
Voilà.
Chacun jugera de celui qui avait raison.
De toute façon, on a déjà recommencé. Donc, on est vraiment dans cette question de la mainmise sur les travaux parisiens. Sur les aménagements parisiens, c'est, on va dire, une charnière hein, entre le pouvoir national et le pouvoir parisien.
Et le président de la République, néanmoins, garde la main sur l'Opéra, la pyramide du Louvre et également l'Arche de la Défense.
Voilà, il va y avoir des grands chantiers qui sont initiés par François Mitterrand, qui vont rester à la main de la présidence.
Je n'aurais garde de mettre la Bibliothèque nationale de France.
Sur les Halles, c'est vrai que Giscard tentera d'imposer son architecte, un catalan, Ricardo Bofill, et c'est Chirac qui reprendra la main en imposant lui les parapluies de Villerval, qui aujourd'hui ont disparu. Donc l'affrontement se joue aussi par l'intermédiaire des architectes que chacun pousse.
Il peut se lire en quelque sorte dans le paysage urbain.
Voilà, on est vraiment dans une lecture de ce face-à-face entre l'État qui considère toujours que Paris est sa chose et en même temps une ville qui tente par plusieurs moyens de reprendre
la main. D'ailleurs, on a évoqué la Troisième République, la grande loi qui organise les communes de France en 1884. Georges Clémenceau, qui préside le conseil municipal en 1875, espère que Paris va enfin recouvrer son autonomie politique au moment où cette loi, portée par le ministre de l'Intérieur Waldeck-Rousseau, doit donner un statut à toutes les communes de France.
Et Clémenceau dit « On conquiert le droit par la propagande de la parole et de la plume, on le conquiert aussi et non moins sûrement par l'action et la pratique. »
Voilà, c'est un homme pragmatique.
Et en face, Waldeck-Rousseau, voilà, grand ministre de l'Intérieur, dit qu'une ville quelconque se soustrait à la loi de l'État, que Toulon ouvre ses portes à l'étranger, que Lyon s'insurge, que la Vendée tout entière se soulève et la France reste la France. Mais que dans Paris règne l'émeute ou l'insurrection, qu'il s'y produise les journées de Thermidor, de Brumaire, de juillet 1830, de février 1848, du 18 mars 1871, et la révolution à Paris devient la révolution ou la contre-révolution dans toute la France.
Voilà, Waldeck-Rousseau, cette fresque synthétise magnifiquement les relations entre Paris et le pouvoir national, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de donner toute liberté à Paris, c'est trop dangereux. Et là, il fait la suite, effectivement, tous ces conflits qu'on a évoqués, de tous ces soulèvements qu'on a évoqués jusque-là.
Et cela ne change guère tout au long de la Troisième République, même s'il y a un certain équilibre entre le conseil municipal qui devient élu, quand même, et le préfet de la Seine, et qui a une certaine importance politique. C'est en 1909 que le conseil municipal de Paris bascule de la gauche, du centre-gauche, vers la droite.
Vers la droite nationaliste.
L'épisode intéressant, l'épisode Ferrer, cet anarchiste espagnol qui avait été exécuté après être rentré en Espagne et après avoir vécu en France, et qui est devenu une personnalité symbolique aux yeux de la gauche. Le débat au conseil municipal tourne, ça arrive très souvent autour de la question de la dénomination d'une rue qui serait éventuellement Ferrer. Et la majorité à une voix préfère le nom d'un gendarme qui vient d'être assassiné par un malfrat. Et c'est là, en 1909, que le conseil municipal bascule à droite. Cela durera jusqu'à Bertrand Delanoë.
Cet isolement, on va dire, quand même, de la capitale, du point de vue politique, par rapport à des gouvernements qui sont quand même plus souvent radicaux ou plus souvent à gauche.
Et par rapport à la banlieue rouge aussi.
Et aussi, bien sûr, avec les élections municipales de 35, où Paris se trouve encadré par des communes périphériques qui, pour beaucoup, vont être dirigées par des communistes. Donc c'est ce qu'on appelle la ceinture rouge, la banlieue rouge autour de Paris. Donc là, il y a cet isolement de la capitale du point de vue politique.
Alors le vrai changement, Isabelle Bacouche, le vrai changement intervient avec la loi de 1975, qui va rendre un maire à Paris, et qui c'est une loi dont la gestation mérite d'être évoquée, retracée, expliquée.
Alors, une gestation qui va se faire dans le sillage d'abord en 1964, il y a une réforme des départements, et le département de la Seine disparaît. Il est divisé en plusieurs départements qui sont les départements actuels autour de Paris. Il est question d'ailleurs de recréer peut-être ce grand département de la Seine en supprimant ces départements périphériques. Mais avec cette loi, Paris devient à la fois une commune et un département. Et puis,
conseil municipal est en même temps le conseil
départemental. Et dans les années 70, on constate, ça c'est une analyse qu'on peut faire a posteriori, mais les acteurs politiques et notamment Giscard d'Estaing qui est devenu président de la République en 74, on constate un réel embourgeoisement de la capitale, un début de désindustrialisation. Finalement, après mai 68, De Gaulle a réussi à réimposer sa majorité. Donc on est moins inquiet par rapport aux velléités contestataires de la capitale. Et c'est ce qui explique cette loi de décembre 75 qui décide que Paris désormais aura un conseil municipal élu à la proportionnelle et un maire élu par ce conseil. C'est quand même lequel premier maire, le 25 mars 77, sera Jacques Chirac.
C'est une date évidemment essentielle pour cette émission consacrée au rapport pluriséculaire de Paris et de l'État. On peut aussi dire que Valéry Giscard d'Estaing avait pensé que ce serait un homme à lui qui serait maire de Paris, c'est-à-dire Michel Dornano, et que les querelles intérieures à la droite entre les Giscardiens et le RPR néo-gaulliste d'autre part ont abouti à ce triomphe de Jacques Chirac qui avait été Premier ministre et qui prend là une éclatante revanche et qui, dans la ligne d'Étienne Marcel mythifié et de beaucoup d'autres, va représenter Paris, voilà, en face du gouvernement.
Il va prendre très au sérieux ce rôle. Il faut quand même dire qu'en tant que Premier ministre de Giscard, il a participé à l'élaboration de la loi, donc est-ce qu'il avait dans l'idée ensuite d'occuper le poste. Mais on va ensuite, à partir de l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, avoir ce face-à-face, notamment pendant les périodes de cohabitation, puisqu'il faut quand même dire qu'entre 86 et 88, Chirac réussit l'exploit d'être à la fois Premier ministre et maire de Paris. Ce qui
c'était
est quand
possible
même...
à l'époque.
Bah, c'était possible, voilà. Je ne sais pas, si entre le matin et l'après-midi, comment il faisait pour se dédoubler.
Et en même temps, ancien député de la Corrèze, et voilà. restant très proche de sa circonscription. Il travaillait
oui,
beaucoup.
Il avait une grosse énergie et une grosse capacité de travail.
Eh bien, dès même avant la cohabitation, dans les tout débuts de la première présidence de François Mitterrand, nous en disions un mot tout à l'heure, il y a un projet de réforme pour découper Paris en plusieurs morceaux. Et voilà comment réagit Jacques Chirac. C'est une archive que j'emprunte au Soir 3 de FR3, comme on disait à l'époque, aujourd'hui France 3, le 9 juillet 1982. Vous allez voir la vigueur.
C'est la pagaille. Voilà le commentaire de Jacques Chirac après les précisions qu'avait données le Premier ministre avant-hier sur l'aménagement du statut de Paris. Pour le maire de la capitale, il n'est pas question de discuter avec le gouvernement de quelque projet que ce soit avant d'avoir une précision sur ceci. Paris est une commune et elle n'a qu'un maire.
Rien compris à ce qui a été dit par le gouvernement, qui nous dit qu'il y aura à Paris un maire et 20 maires. Il y aura une commune et des communes. Tout ceci, il y aura une communauté urbaine à l'envers. Enfin, tout ceci est naturellement totalement déraisonnable. Tout ce que je peux dire, c'est qu'une réforme tendant à découper Paris est une réforme qui serait à la fois ruineuse pour les Parisiens et qui instaurerait le désordre et la pagaille dans Paris. Par conséquent, autant je suis prêt à négocier et à discuter. Si l'on me dit qu'il y aura à Paris une commune, un conseil démocratiquement élu et un maire. Mais l'importance de la ville, comme d'ailleurs dans les autres villes importantes de France, justifie des modalités d'application pour répondre aux exigences de la décentralisation. Et je dis très bien, discutons ensemble, le gouvernement d'un côté, les maires de Paris, Marseille, Lyon de l'autre, pour voir les adaptations nécessaires. Ça d'accord. Si en revanche on me dit Paris, pour des raisons qui ne peuvent être que politiques et de sanctions politiques à l'égard des Parisiens, Paris doit être découpé en petits morceaux, les autres villes n'étant naturellement pas touchées, je dis, je ne discuterai pas tant que sera mis en cause le principe de l'unité de la capitale de la France.
Une dernière question, monsieur le maire. Êtes-vous prêt à organiser ce référendum ?
Pour le moment, je demande au gouvernement de l'organiser. Il serait normal, démocratiquement, avant d'imposer, d'asséner une réforme aux Parisiens, il serait normal qu'ils les consultent. S'ils ne le faisaient pas, j'envisagerais naturellement les moyens d'une consultation qui, naturellement, ne pourrait avoir qu'un effet indicatif, mais qui tout de même serait politiquement important.
Naturellement, c'est l'adverbe favori de Jacques Chirac. Les choses n'apparaissent pas naturelles, vu de l'Élysée, vu du château, comme on dit. Et il faut expliquer que ce projet de division de Paris, qui renoue avec beaucoup de précédents, a échoué, que la réforme était tout à fait édulcorée.
Il y avait des enjeux politiques très forts, c'est-à-dire que Georges Sarre, qui parlait pour les socialistes, avait clairement dit qu'il était question de chasser le RPF et le RPR de l'hôtel de ville.
Une franchise qui n'était pas très efficace.
Aujourd'hui, depuis 2015, Anne Hidalgo, la maire socialiste de Paris, a engagé cette réforme qui répond aussi à un souci de simplification administrative, c'est-à-dire que cette loi du 28 février 2017 va par exemple donc supprime la dualité entre départements et communes, réattribue à Paris un certain nombre de prérogatives et également une décision plus, on va dire... spectaculaire pour les Parisiens, c'est la fusion des 4 arrondissements centraux du 1er au 4e. Donc ils vont plus faire qu'un seul arrondissement, même si les mairies des 4 arrondissements vont subsister pour des services de proximité.
Et comment est-ce qu'on va l'appeler ?
Et aujourd'hui, on cherche un nom, donc je crois que les Parisiens sont appelés à se prononcer. Il y avait deux noms au départ, Cœur de Paris et Centre de Paris, mais j'ai vu tout récemment qu'il y a un troisième nom qui avait émergé, c'est Secteur Lutèce. Donc là, on renoue avec le premier nom
de la capitale, Lutèce.
L'île de la Cité, etc.
Dans l'île de la Cité, voilà le premier noyau qui était circonscrit donc principalement à l'île de la Cité.
C'est un sens de l'histoire que nous pouvons que saluer ici, Isabelle Bacouche. Il faut peut-être dire un mot de la question de la circulation, et en particulier ces fameuses voies sur berge qui ont figure à la fois de symboles et d'enjeux majeurs quant à la répartition des pouvoirs du gouvernement central, les préfets, et d'autre part, le ou la maire de Paris.
Donc le préfet de police qui a la main mise effectivement sur tout ce qui est circulation, et donc notamment la circulation sur les voies sur berge, et la maire de Paris qui, avec des arguments écologiques, de protection de l'environnement, de lutte contre la pollution, mais également la volonté finalement de redonner la Seine aux Parisiens et de leur accorder un espace en plein cœur de la capitale, qui a été baptisé d'ailleurs Parc Rive de Seine. Et là, on a vraiment un enjeu, une bataille politique depuis 2 ans, hein, avec finalement des arrêtés municipaux qui sont remis en cause par des décisions du tribunal administratif et la maire qui reprend un arrêté municipal. Donc là, on a vraiment une bataille juridique pour parvenir sanctuariser finalement cet espace en plein cœur de Paris que les Parisiens vont progressivement se réapproprier.
Il est d'ailleurs frappant que dans les années 60, ce soit le préfet de la Seine qui ait annoncé qu'on allait construire la voie express rive droite, que Georges Pompidou, président de la République, ait demandé qu'on adapte Paris à la voiture et par conséquent avait prévu qu'il y ait une voie express rive gauche passerait même devant Notre-Dame, et que c'est Valéry Giscard d'Estaing, toujours le pouvoir central, qui avait mis fin à cette intention.
Oui, là, on est dans ce face-à-face entre une modernisation extrême de la ville avec la voiture qui s'empare de la capitale, et puis des freins quand même qui ont été apportés progressivement.
Avec une extension du pouvoir de la maire.
Oui, bien sûr. Et ça, c'est dans la loi de février 2017 qui permet aussi, qui donne plus de pouvoir à la maire de Paris pour aller jusqu'au bout de cette logique d'aménagement urbain dans la capitale.
Affaire à suivre, affaire à suivre. Merci d'être venu à ce micro. Vous avez, Isabelle Bacouche, dirigé avec Boris Bove, Robert Dessimon et Claude Gauvard, un livre collectif consacré à Notre-Dame et l'Hôtel de Ville, incarné Paris du Moyen-Âge à nos jours. C'est une publication de la Sorbonne et du Comité d'Histoire de la Ville de Paris, auquel vous appartenez, publication de 2016. Philippe Nivet et Yvan Combault nous ont donné une histoire politique de Paris au XXe siècle, aux Presses universitaires de France en 2000, également très utile. Et puis, vous avez donné à l'Histoire, à la revue L'Histoire, en février 2014, un article qui s'intitule « D'Étienne Marcel à Bertrand Delanoë, qui a peur du maire de Paris ?» C'est un texte bref, forcément, mais qui nous a été très précieux pour préparer cette émission. Et vous nous annoncez également une brochure. C'est un livre ou une brochure ?
Un petit guide.
Et vous nous annoncez également un petit guide consacré à Paris au fil de la Seine, les carnets des guides bleus, à paraître le 2 octobre prochain dans la collection Hachette Tourisme. Je vous rappelle que vous pourrez trouver une bibliographie complète sur notre site, ainsi que les références des documents sonores que nous avons utilisés, et que vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission, afin de la garder pour l'éternité. Samedi prochain, nous parlerons de la Pologne. Vous savez qu'il y a de grands débats sur les lois mémorielles dans ce pays. Comment la Pologne organise-t-elle son commerce avec son passé, d'une façon qui peut éventuellement préoccuper les démocrates. La Pologne, les brûlures de l'histoire. Et je recevrai Jacques Rupnik. Lundi matin, chez Emmanuel Laurentin, vous retrouverez une semaine consacrée aux figures de l'internationalisme. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée avec le précieux concours de Jeanne Guéroux, une émission réalisée désormais par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Véronique Jolivet. Et dans quelques instants, je passerai le relais à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.